Nous sommes heureux d'être parmi vous ce soir. Donc, comme il a été dit, nous sommes mariés depuis 44 ans. Nous sommes parents de 4 enfants et de 5 petits-enfants. Donc, nos enfants ont de 37 à 42 ans. Et nos petits-enfants ont de 10 mois à 18 ans. C'est pour vous brosser un petit peu. Alors, nous voulons, je pense qu'on peut faire une courte prière au Seigneur pour nous recueillir. Seigneur, nous te bénissons d'être au milieu de nous. Et nous réalisons tellement en ces temps de la fin difficile que nous avons besoin de toute ta grâce dans nos foyers pour tenir. Pour que nos foyers ne se brisent pas, il y en a tant qui se brisent. Mais si toi, tu es au milieu de nous, tu nous aideras à rester debout, à rester fidèles. Grâce à toi, tout n'est que grâce de toute manière. C'est vrai, Seigneur, nous avons 44 ans de mariage et de ministère, mais nous réalisons tellement que tout n'est que grâce. Et nous voulons te dire un grand merci, Samuel et moi, ce soir, de nous avoir gardés pendant toutes ces années. Vous savez, personne ne peut avoir la tête haute et juste dire « c'est moi, c'est à cause de moi ». Nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, de conduire maintenant cette soirée. Inspire-nous, aide-nous, Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a juste donner cette image, et je trouve que aujourd'hui, pour comme introduction, est cette pensée qu'un foyer, c'est comme une maison qu'on construit. Et on ne construit pas une maison n'importe comment. Vous connaissez l'histoire dans Matthieu 7 de celui qui a construit sa maison sur le sable. Et celui qui a construit sa maison sur le roc, et la différence des deux maisons. Ce qui est arrivé aux deux maisons. Celle qui était construite sur le sable, la tempête est arrivée, a soufflé, et la maison s'est écroulée, parce qu'elle était construite sur le sable. Tandis que celle qui était construite sur le roc, eh bien, elle a tenu contre vents et marées. Et le Seigneur voudrait que nous construisions notre maison, c'est-à-dire notre foyer, sur le roc qu'est Jésus. Parce que sans lui, nous sombrerons, nous serons des maisons construites sur le sable, et les vents et marées souffleront contre nous, et nous croulerons aussi. Nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces pour tenir la maison debout. La maison doit être fondée sur le roc. Il est vrai que si nous voulons construire un foyer stable, heureux, équilibré, qui glorifie notre Seigneur, il est primordial de construire notre foyer en ne comptant pas sur nos propres forces, sur notre propre sagesse ou sur nos idées, mais sur celle de notre Créateur, notre Seigneur. Parce que, en fait, c'est lui qui a institué le mariage. C'est lui, notre Créateur, qui nous a créés et qui sait de quoi nous sommes faits. Alors, nous avons tant besoin de lui. J'ai préparé 7 règles pour un bonheur conjugal. Je serai brève. Je ne vais pas trop les développer. La première règle pour mettre un fondement solide à notre maison, à notre foyer, c'est de veiller à notre santé spirituelle, chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas avoir un foyer solide si nous ne sommes pas d'abord un bon chrétien, une bonne chrétienne. C'est impossible. Parce que des tensions viendront dans le foyer. Et si nous ne sommes pas reliés avec notre Créateur, celui qui a créé le mariage, le foyer, eh bien, nous sombrerons aussi. Mais si nous veillons à ce que notre relation avec le Seigneur soit intacte et forte, notre maison tiendra. Et le Seigneur saura nous ramener l'un vers l'autre s'il y a des tensions, s'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés. Donc, première règle, être une bonne chrétienne pour la dame et un bon chrétien pour le mari. C'est important. Donc, avant d'être un bon mari, une bonne épouse, il faut d'abord être un bon chrétien, une bonne chrétienne. Deuxième règle, le mariage selon, il faut savoir que le mariage selon Dieu est une relation permanente. On se marie pour la vie selon Dieu. Pas pour 6 mois et quand à la première tension ou à la première difficulté, on claque la porte et on s'en va. La relation que le Seigneur a prévue dans le mariage, c'est une relation à vie. C'est son plan. C'est ce qu'il a prévu. C'est ce qu'il aimerait qu'il se passe. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est pas tellement ce qu'on voit souvent, mais c'est à nous d'y veiller. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Le Seigneur nous aidera. Et j'ai noté que le mariage est une institution établie par Dieu et l'expression originale du mariage, c'est l'homme s'attachera à sa femme et ce mot attaché est tellement fort que ça veut dire coller. L'homme sera collé à sa femme ou la femme à son mari. C'est beau, hein? Ça montre la force. Si on est collé, ben on est collé. On ne peut pas tellement se décoller hein, quand on est collé. Ou on pourrait dire aussi soudé. L'homme est soudé à sa femme et il ne forme plus qu'un. Et cette unité très très forte que nous sommes en tant que couple n'est pas seulement sur le plan physique, mais doit être aussi sur le plan spirituel. Vous comprenez? Parce que le plan physique, ça marchera toujours. Mais le plan spirituel, on peut ne pas avoir les mêmes pensées, on peut ne pas être unis spirituellement. Et là, c'est tout un travail qu'il faut rechercher. Donc, l'engagement du mariage, c'est un engagement total de 2 personnes dont le but est l'unité parfaite, l'intimité absolue, un libre partage des pensées et des sentiments les plus secrets. Le mariage est une union sacrée. Un homme et une femme unis ensemble pour se compléter l'un l'autre. Si le couple réalise cela, chacun d'entre eux sera moins tenté de blesser l'autre. Retenez ça, c'est important. Si vous réalisez que nous sommes une unité, que nous sommes collés l'un à l'autre et que c'est Dieu qui nous a collés ensemble, si nous sommes chrétiens, eh bien, nous serons moins tentés de chercher à nous blesser l'un l'autre. Parce qu'on sait très bien que si on blesse l'autre, on se blesse soi-même, puisqu'on est une unité. Donc, ce n'est pas la peine d'être méchant ou méchante avec son conjoint, de dire de mauvaises paroles, parce qu'en le faisant, on blesse l'autre et on se blesse soi-même. Il ne faut pas croire qu'on peut blesser l'autre sans se blesser soi-même. C'est une réalité, ça. On le découvre au fil de la vie. Parce que je vous dis tout de suite que ça n'existe pas un couple sans tension jamais. Oui, où tout est toujours, on est toujours parfaitement unis. Ça n'existe pas. S'il y en a un ce soir, je vais le prendre en photo. Ici, s'il y en a un qui dit « Ah, nous, non, c'est pas comme ça, nous. » Voilà, deuxième conseil, c'est donc de réaliser que le mariage est quelque chose de permanent, de solide, on est soudés ensemble. Troisième règle, c'est de réaliser que ce que Dieu a prévu, c'est la complémentarité dans le couple. C'est-à-dire, la femme a été unie à l'homme pour compléter l'homme. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, le Seigneur ne s'est pas trompé en créant la femme. L'homme, il l'a trouvé incomplet et il a trouvé qu'il avait besoin d'une femme. Alors, si tous les deux, on réalise que c'est le plan de Dieu de se compléter l'un l'autre, alors on y veille et on fait attention. Et quelqu'un a dit que l'homme est la tête du foyer et la femme le cœur. Et c'est vrai. On est complémentaires dans ce domaine-là parce que l'homme, c'est le chef du foyer, comme le dit un autre passage. Et puis la femme, elle est plus sentimentale, alors elle apporte la chaleur du cœur dans le foyer. L'homme, c'est le cerveau, c'est le chef, c'est le responsable, et la femme, c'est le cœur. Est-ce qu'un corps, il n'a qu'une tête? Est-ce qu'avec une tête, il peut fonctionner tout seul, un corps? Il a besoin du cœur aussi. Et il en est ainsi dans le foyer. Un foyer où il n'y a qu'une tête, ou bien un foyer où il n'y a qu'un cœur, il sera vraiment déséquilibré. Il faut réaliser que Dieu a créé la femme pour être l'aide, le complément, l'aide, le soutien, le complément de l'homme. Et j'aimerais lire un passage dans la Genèse, Genèse 2, 18, un passage que vous connaissez bien. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 18 et au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et ensuite au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, on voit là, dans le commentaire qu'il y a en dessous dans ma Bible, il est dit qu'une aide, quand Dieu a créé la femme pour être une aide semblable au mari, il est dit que la femme a été créée pour être une aide, une tendre compagne pour l'homme, et en tant que telle, elle devait partager ses responsabilités. Vous vous rendez compte? Partager ses responsabilités et coopérer avec lui afin d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie et celle de leur famille. L'homme ne prend pas ses décisions comme ça tout seul. Il est le chef, c'est vrai, c'est lui qui a la décision finale, mais il doit consulter sa femme aussi parce que Dieu l'a placé à côté de lui pour l'aider dans ses décisions, pour le soutenir, pour l'encourager quand il est découragé, pour être son complément dans différents domaines. Bien sûr, je ne peux pas développer tout ça, c'est beaucoup trop long. Voilà, en tout cas, il faut aussi réaliser que nous sommes complémentaires dans le foyer. Une quatrième règle importante, apprendre à gérer les tensions dans notre couple. Vous savez, il nous arrive à tous d'avoir des tensions dans le couple, que d'un seul coup, on ne se comprend plus, ou on a des idées différentes et qui vont l'un dans une direction, l'autre dans l'autre. Alors, je vous dis quelque chose que vous pouvez expérimenter et que vraiment je vous conseille de faire avant de chercher une solution vous-même. Pour que vous reveniez ensemble quand vous êtes chamaillé, comme on dit, ou comment vous dites ici, je ne sais pas, chicané. Quand vous êtes chicané pour revenir ensemble, c'est parfois très difficile parce que on ne sait pas très bien comment faire. Chacun, on reste en boude, chacun dans son coin, et puis on ne sait plus bien comment revenir ensemble. Alors je vous dis une chose que vous pouvez vraiment faire et que nous avons fait durant toutes ces années, c'est de chercher, de dire au Seigneur, Seigneur, aide-nous. Si chacun de vous, dans son coin, puisque vous êtes momentanément chacun dans votre coin, chacun dans votre tour, dites simplement au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je veux faire ma part. Si j'ai à demander pardon, je veux le faire. Si chacun de vous le fait, le Seigneur vous ramènera forcément l'un vers l'autre. Nous avons ce grand privilège d'avoir entre nous deux le Seigneur. Et le Seigneur, c'est pas n'importe qui, vous le savez bien. Heureusement qu'il est là. Et qu'il nous aide toujours à revenir l'un vers l'autre. Donc quand nous avons des tensions, demandons plutôt l'aide du Seigneur que de chercher à résoudre nos tensions par nos propres forces ou nos idées personnelles. Le Seigneur saura comment nous remettre sur les rails. Il est, dit la parole, le réparateur des brèches. Et parfois, il y a des brèches qui sont faites entre nous. Comment les réparer? Le divin créateur, s'il vient, il saura le faire, lui. Parce qu'il a une sagesse suprême. Il est le professeur des professeurs, il est l'éducateur le plus élevé qui soit. C'est celui qui nous a créés, l'un comme l'autre, donc il saura comment faire pour vous ramener ensemble. Adressons-nous à lui quand nous avons des problèmes. Le meilleur des conseils que je puisse donner et que nous avons expérimenté. Cinquième conseil, bannir absolument de notre vocabulaire le mot divorce. Faut que ça ne sorte jamais de votre bouche. Parce que c'est le commencement de la destruction du couple. Et il faut que les époux, tous les deux, se mettent d'accord. On ne dira jamais ça, même si on se fâche l'un avec l'autre. Mais ne parlons jamais de divorce. Surtout quand il y a des tensions. Cela évitera le dérapage et empêchera l'ennemi de vous conduire là où vous ne voudriez même pas aller. C'est-à-dire aller plus loin et de plus en plus loin. Et si vous avez dit le mot divorce une fois, vous le ferez une deuxième fois et vous le direz une troisième fois, une quatrième fois et pour finir, ça va se faire. Alors il faut absolument décider de ne jamais dire ce mot. Et si vous l'avez dit, demandez pardon au Seigneur. Et puis demandez pardon à votre époux. Demandez-vous pardon mutuellement. Et décidez ensemble. C'est un conseil que je vous donne, de ne jamais dire ce mot. Ça vous tiendra ensemble. Sixième règle, pour nous ramener l'un vers l'autre, parce qu'il faut beaucoup de médicaments aujourd'hui pour ramener les conjoints l'un vers l'autre, puisqu'il y a tant de divorces, ça veut dire qu'on se sépare trop facilement. Le pardon est le moyen par excellence pour réparer nos brèches, pour nous réconcilier, le pardon. Aujourd'hui, où tant de foyers sont brisés, tant de familles se désintègrent, ce qui n'engendre que solitude, amertume, haine, rébellion, vengeance, même meurtre, combien il est urgent de découvrir notre arme la plus efficace, nous les chrétiens. Nous avons une arme contre le divorce, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon, nous avons écrit un livre, Le pardon, une puissance qui libère, c'est valable à l'échelle personnelle, mais c'est aussi valable à l'échelle du couple. Le pardon est une puissance qui libère. Il vous libérera, vous madame, vous monsieur, et il libérera votre couple aussi. Très important, le pardon est le remède par excellence pour nous réconcilier. Alors, quand nous avons un différend décidons de pardonner à notre conjoint qui nous a blessés. Admettons que c'est monsieur qui a blessé madame. Alors, madame, votre décision doit être de pardonner à votre mari s'il vous a blessé. Pareil pour vous, si c'est votre épouse qui vous a blessé, décidez de pardonner parce que ne restez pas, ne vous couchez pas sur votre colère. Soyez, pensez, oubliez-vous vous-même et pensez à l'épanouissement de l'autre plus qu'à votre blessure. Et si vous avez blessé l'autre, celui qui a blessé l'autre, doit se remettre en question. Si tu vois que tu as blessé ta femme, demande-lui pardon. Ou si tu as blessé ton mari, demande-lui pardon. Lorsque nous avons réalisé que nous avons blessé notre époux, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et à ce moment-là, le Seigneur nous aidera. Et il nous ramènera l'un vers l'autre. Ce sera le moyen de réconciliation le plus évident, le plus fort, le plus puissant. Comme le Seigneur nous a pardonnés, pardonnons-nous réciproquement. Parce que celui qui ne pardonne pas sera toujours celui qui souffrira le plus dans la situation. Si tu refuses de pardonner, c'est toi qui vas souffrir. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu remplis ton cœur de ressentiment. Et ce ressentiment que tu laisses mijoter dans ton cœur te fera souffrir. Te fera souffrir plus même que la faute de ton conjoint. Si ton conjoint t'a fait mal, et si tu ne lui pardonnes pas, si tu gardes de l'amertume contre ton conjoint, eh bien, ton conjoint t'a fait mal, ça te fait mal, ça te fait une blessure, mais l'amertume que tu as suite à ce mal qu'elle t'a fait ou qu'il t'a fait, te fera encore plus souffrir. Donc, on a avantage à pardonner. Comprenez? Vous n'êtes pas maître des actions de l'autre, mais vous pouvez contrôler vos propres réactions. C'est important, ça. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction de votre conjoint parce que personne ne peut changer le conjoint. Mais vous pouvez contrôler votre propre réaction face à ce qui se passe. Septième règle et dernière règle, l'importance pour un couple de prier ensemble et de choisir des moments de tête-à-tête avec votre conjoint. Quelqu'un a dit, des époux qui prient ensemble restent ensemble. Si vous ne priez pas ensemble, c'est bien de prier chacun pour soi. C'est vrai que nous devons chacun avoir notre relation avec Dieu personnelle d'abord, c'est vrai. Mais cela ne remplacera jamais la relation, le moment de prière ensemble. C'est important parce que dans la prière, quand chacun prie de son côté, l'unité ne peut pas se faire, le Seigneur ne peut pas nous unir de la même façon que quand nous prions ensemble. Parce qu'on ne peut pas prier longtemps ensemble en gardant de l'amertume dans son cœur, parce que le Seigneur révèle tout de suite qu'à l'un ou à l'autre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il nous aide à ce moment-là à nous humilier, à nous en repentir, et il nous aide donc à remettre les choses en place. Efforçons-nous aussi de choisir des moments de tête à tête. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, d'hommes ou de femmes, qui sont tellement occupés par leur travail que des moments avec son conjoint, ça devient de plus en plus rare, on court chacun de son côté. On n'a plus le temps, il y en a même qui se croisent. L'un travaille le jour, l'autre la nuit, c'est difficile. Mais il faut choisir un moment où, régulièrement, où on se retrouve tous les deux. C'est parfois difficile quand les enfants sont petits, c'est vrai, c'est difficile, parce que la maman est très occupée quand les enfants sont petits, le papa aussi peut-être. Mais donc, il faut décider de prendre du temps pour dialoguer avec votre conjoint. Parce que faute de dialogue, le couple peut avoir de sérieux problèmes, chacun vivant sa vie de son côté. Ça, c'est une règle aussi qu'il faut observer et où il faut décider de changer les choses. Si jusqu'à présent, vous n'avez pas prié ensemble, vous n'avez pas eu de tête-à-tête régulièrement de votre couple, je vous encourage beaucoup à prendre cette décision et à changer vos habitudes. Alors j'arrête là et je vais laisser la place à mon mari qui va continuer. Je te prie, Seigneur, d'appliquer ces quelques paroles à nous tous. C'est vrai que nous avons tous des progrès à faire. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu vas continuer de nous parler et de nous exhorter au travers de ta parole. Seigneur, merci d'être au milieu de nous et de t'occuper de chacune de nos vies. Nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes, nous voulons vivre à ta gloire, pour être une lumière dans ce monde, afin que d'autres voient que nous aimons et que c'est toi qui nous as unis, Seigneur. Oh, merci de continuer de nous parler maintenant. À toi la gloire, la puissance et le règne qui te revient. Seigneur, établis la paix dans chacun de nos foyers s'il y a des tensions. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Amen.
C'est vrai qu'un couple, un mariage, c'est comme une maison. Il faut des fondements. Et vous connaissez cet autre passage dans l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. La corde a combien de fils ? Ne seront pas facilement. La corde a trois fils, trois brins ne seront pas facilement. Et cette parole convient au couple. Le couple forme les deux brins et le troisième brin est là pour tenir les deux ensemble. Et là, j'aimerais dire trois mots. Sur quelles sont ces trois cordes en somme qui peuvent tenir les couples unis. Trois cordes qui, entrelacées l'un à l'autre, feront que ça tiendra bon. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, on entend tellement de choses aujourd'hui qu'on divorce si facilement, même parmi les chrétiens. Que ça se fasse dans le monde, c'est grave, mais on comprend, ils n'ont pas le Seigneur. Mais qu'un chrétien, des personnes qui se disent chrétiennes et qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, c'est que il y a quelque chose qui n'a pas pleinement été saisi selon la pensée du Seigneur. Et j'aimerais brièvement vous donner ces trois brins, ces trois cordes qui vont nous tenir toujours ensemble dans la vie du couple. Bon, Dorothée en a parlé un petit peu, mais il est bon de revenir sur certains points. La première corde qui nous tiendra unis dans le couple, c'est d'abord et avant tout une bonne relation avec le Seigneur. On le répétera jamais assez. Un bon époux, une bonne épouse, c'est avant tout une bonne chrétienne et un bon chrétien. S'il y a des problèmes dans le couple, qui se dit chrétien, Cela veut dire que ce chrétien, des problèmes graves, j'entends. Cela veut dire que le chrétien ne met pas en pratique ce que la parole de Dieu lui dit dans tel ou tel cas. Prenez par exemple Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Vous vous rendez compte? Si chaque chrétien manifestait ses 9 fruits de l'esprit, c'est le fruit, mais c'est une grappe avec 9 fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. Mais chaque chrétien devrait avoir cela. Et si chaque couple chrétien manifestait ses fruits de l'esprit, vous croyez qu'il y aurait des matchs de boxe ? Ou les assiettes qui se balancent comme ça? Réfléchissons un petit peu. Souvent on pense, ah oui, mais non. Si tu es chrétien, il faut, pour être une bonne épouse, un bon mari, il faut d'abord que tu vives bien ta foi chrétienne. Il faut que tu sois un bon disciple de Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de problèmes seront résolus. Imagine le chrétien, la chrétienne, l'époux, l'épouse qui manifeste les fruits de l'esprit. Combien de choses seraient réglées automatiquement, n'est-ce pas vrai? Souvent, il y a des conflits. Pourquoi? Parce qu'on manque d'amour, de joie, de paix, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. S'il y avait toutes ces qualités-là, mais le couple, selon le plan de Dieu, a été fait pour que ce soit le ciel sur la terre. Il est écrit ainsi. Vous vous rendez compte? Ce que le Seigneur avait prévu pour ce couple, que ce soit le ciel sur la terre. Et malheureusement, quand on fait pas les choses comme Dieu veut, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le ciel sur la terre, c'est quoi? Vous avez tout de suite trouvé. Et beaucoup se disent, si c'est le ciel, l'enfer sur la terre, autant ne pas se marier. Il est bon de le répéter. Un bon mari, une bonne épouse, doit être un bon chrétien, une bonne chrétienne. Votre vie spirituelle influencera votre vie de couple. Et je le vois quand avec Dorothée, on a des tensions de temps en temps. Ça arrive. Et vous savez à quel moment ça arrive? Bien souvent parce que ma relation avec le Seigneur n'est pas ce qu'elle devrait être. Si ma relation avec le Seigneur n'est pas au beau fixe, il va y avoir des tonnerres et des éclairs entre nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si ma relation est bonne avec le Seigneur, elle le sera avec mon conjoint. Mais si ta relation avec le Seigneur n'est pas bonne, comment veux-tu que ça marche avec ton conjoint? C'est le Seigneur qui est la source de tout. Si l'Éternel te bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Jean 15, il y dit aussi, il est le cep, nous sommes les sarments. Si on veut que le sarment porte du fruit, il faut qu'il soit attaché au cep. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, la plupart des problèmes dans les couples chrétiens provient de ce que l'un ou l'autre ne vit pas sa foi chrétienne. Ne vit pas sa foi. Il a des réactions d'un païen. Il parle comme un païen. Il agit comme un païen. Il fait le gars du monde. Il fait comme lui. Ou lui fait comme celui du monde. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes dans les couples chrétiens. La vie spirituelle laisse à désirer. Si ta relation avec le Seigneur n'est pas une relation réelle, profonde, la relation avec ton épouse va dépendre de cela. Si elle n'est pas réelle avec le Seigneur, elle ne sera pas réelle avec ton conjoint. Si elle n'est pas profonde avec le Seigneur, elle ne sera pas profonde avec l'autre. Si elle est superficielle avec le Seigneur, elle sera superficielle avec ton conjoint. Tout va dépendre de cela. Écoutez, c'est important. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Première corde. Veillez à une bonne relation avec le Seigneur. D'ailleurs, vous-même, examinez-vous quand ça ne va pas. C'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas manifesté le caractère de Christ. On a manifesté le caractère du père ou du grand-père. Tu ressembles à ta mère, toi. Ou on ressemble à l'arrière-grand-père, je ne sais quoi. On manifeste tous ces caractères-là. Mais ce qu'il nous faut manifester, c'est le caractère du Seigneur. Pourquoi il y a des problèmes à un moment donné? Parce que tu n'as pas manifesté le caractère de Christ. Soyons honnêtes, moi je le vois. Quand il y a quelques tensions, c'est parce que il y a des tensions avec le Seigneur. Il faut que je règle un peu tout ça avec lui. Il faut que ça revienne au beau fixe, que je sois bien avec le Seigneur. Et si je suis bien avec lui, je suis bien avec mon épouse. Il en sera de même avec vous. N'imaginez pas que ça ira avec votre épouse quand, avec le Seigneur, ça ne va pas. Vous vous refroidissez. Vous ne pouvez pas avoir un amour ardent pour votre épouse quand vous êtes un amour froid avec le Seigneur. Quand votre amour s'est refroidi par rapport au Seigneur. C'est impossible. La plupart des problèmes proviennent de là. Une mauvaise relation avec le Seigneur. Automatiquement, il y aura une mauvaise relation avec ton conjoint. Si tu rétablis cela, ça se rétablira aussi horizontalement. Veillez, c'est important. Souvent, on cherche des solutions. On va voir des personnes, des spécialistes et tout cela. Ne dépense pas ton argent pour rien du tout. Reviens au Seigneur. Sois humble, humilie-toi devant le Seigneur. Réalise, je parle à des chrétiens ici, n'est-ce pas? Je ne parle pas des païens, aux chrétiens. Dans quel état tu es? Est-ce qu'en tant que chrétien, c'est normal comme tu réagis? Ah oui, mais elle avait dessus. Oui, ça y est, c'est toujours l'autre. Mais toi, non, ça ne marchera pas. Il faut que toi-même, tu sois humble et que tu t'humilies. Il faut une grande droiture. Sinon, ça n'ira pas. Ça n'ira jamais. Sinon, on devient des hypocrites. L'autre te connaît. N'essaye pas de te cacher. Tu es connu. Et tu seras apprécié quand tu reconnais tes erreurs et que tu veux changer. Première corde, une bonne relation. As-tu une bonne relation avec le Seigneur? Si tu as des tensions, on ne vous connaît pas, mais examinez un petit peu, vous verrez que ça vient de ce que on ne manifeste plus le caractère de Christ. On est là, on agit un peu comme bon nous semble. Comme dans le monde aussi, oh, ils font comme ça, et voilà, on est emporté par le courant de ce monde. Tu n'as pas à être emporté par le courant de ce monde. Et tu n'as pas à copier l'esprit et la philosophie de ce monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. En Christ, nous avons des possibilités qui n'existeront jamais dans ce monde. Et si tu te confies en lui, le miracle est possible. Mais il faut de l'humilité pour reconnaître cette heure. Si tu n'es pas humble, tu casseras tout. Deuxième corde. La deuxième. Première, vous en rappelez? Vous n'avez pas oublié, j'espère. Une bonne relation avec le Seigneur. Ça, c'est important. Vous verrez, dès que vous cherchez à maintenir cette relation bien avec le Seigneur, horizontalement, les choses iront beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Tu vas commencer à manifester les fruits de l'esprit. C'est formidable. Ton épouse ou ton époux va plus te reconnaître. Les fruits de l'esprit. Vous savez, il y a des chrétiens qui manifestent les fruits de l'esprit à l'égard des autres chrétiens, mais pas à l'égard de son conjoint. Il faut déjà commencer par le conjoint. Il y a des chrétiens qui manifestent les fruits à l'égard d'autres personnes, du sexe féminin. Au lieu de manifester ça à l'égard de l'autre, c'est à l'égard de ta femme que tu dois le faire. Pas à l'égard des autres. Et c'est comme ça que les accidents arrivent. Bon, allons plus loin, sinon... Hein. Alors, deuxième corde. Un esprit de maturité. Les spécialistes dans le domaine matrimoniaux et tout cela disent que la plupart des problèmes dans un couple provient d'un manque de maturité. Un jour, j'avais lu cette pensée. Le mariage n'est pas fait pour des enfants, mais pour des adultes. Soulignez bien cela. Le mariage n'est pas fait pour des enfants. Il faut une certaine maturité pour se marier. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, deuxième corde qui tiendra le couple uni. Un esprit de maturité. Et qu'est-ce qui empêche cette maturité? C'est l'égoïsme. L'égoïsme est l'ennemi mortel dans un couple. Et l'égoïsme, c'est quoi? L'égoïsme, ne l'oubliez pas, c'est l'essence même du péché. L'égoïsme, c'est le péché. C'est faire ce que je veux au lieu de faire ce que Dieu veut. Donc il y a là une deuxième vérité. Un esprit de maturité. Et pour que cela se manifeste, il faut que cet esprit égoïste disparaisse. Et comment le faire disparaître? Tout simplement en mettant en pratique un verbe, le verbe aimer. Le verbe aimer, en grec, est le verbe agapé, agapéo. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la signification de ce verbe. Marie, aimez votre femme. C'est le verbe agapéo. C'est un amour divin. La Bible parle aussi d'un autre amour, qui est un amour humain, l'amour philéo, philosophie, philanthropie. Et vous savez comment agissent ces deux amours? L'amour humain vit toujours pour recevoir. Tandis que l'amour divin vit pour donner. Voilà une différence fondamentale. Et encore là, si vous voulez, et si nous voulons manifester une certaine maturité dans notre couple, grattez un petit peu certains problèmes. À un moment donné, vous verrez que, au lieu de manifester un amour qui vit pour donner, on est là, on manifeste un amour humain, philéo, qui vit pour recevoir. Vous attendez quelque chose de votre conjoint et vous ne l'avez pas reçu. Et comme vous ne l'avez pas reçu, ça commence à grincer. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi? Et alors là, l'amertume commence à venir et c'est l'amour philéo que l'on met en pratique. Finalement, cet amour philéo, c'était quoi? C'est l'amour qui existe dans le monde. On s'est converti et on a gardé cet amour philéo, alors qu'on devait convertir notre amour philéo en un amour divin, agapéo. Mais beaucoup de chrétiens sont encore philéo. Ils ont été déçus dans le monde. Ah, ils n'ont pas reçu du monde. ce que, vous voyez, ils étaient là comme des mendiants. Ils ont été déçus du monde. Ah, ils voulaient toujours recevoir. Ah, ils n'ont pas été. Ils se convertissent et ils viennent avec la même mendicité, avec le même esprit. Ah, maintenant, peut-être avec mon conjoint ou avec les chrétiens, je vais recevoir ce que je n'ai pas reçu dans le monde. Mais t'es dans le même esprit! Et tu vas encore faire des expériences douloureuses et malheureuses. Il faut maintenant, si tu veux que les choses changent, tu dois changer ta façon d'aimer. Et cette façon d'aimer, c'est de transformer l'amour philéo qui vit pour recevoir en un amour divin, agapéo, qui vit pour donner. Imaginez maintenant. Dans un couple, il y a des histoires, gratter un petit peu, il y en a un qui attend que l'autre fasse quelque chose. Comme je le dis de temps en temps avec un peu d'humour, c'est un peu un couple, c'est comme deux sangsues qui se marient. Les sangsues, ça existe ici les sangsues ? Des sangsues ? Une sangsue ne vit que pour recevoir, prendre. Imaginez-vous un couple de jeunes chrétiens qui se marient. Ah ! Oh là là, il va me donner tout ce dont j'ai besoin. Voyez, on vient avec l'amour philéo. Ah, il va me, voilà, tout ce que je n'ai pas reçu, et de mes parents, et de je ne sais qui, je vais le recevoir. On vient avec cet amour sensu, pour recevoir. Mais le problème, c'est que l'autre, il a le même raisonnement. Oh, il est déçu aussi, de son amour avec dans le monde et tout. Ah, il se marie avec de grands espoirs. Ah, ça va être extraordinaire. C'est le prince charmant. Il va me donner tout ce dont j'ai. Il va me donner. Voyez-vous, l'égoïsme est toujours là. Envie pour recevoir. Et qu'est-ce qui se passe? Quand deux sangsues se marient, ça ne dure pas longtemps. Au bout d'un certain temps, pouf, tous les deux sont par terre. Il n'y a plus rien du tout. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens ont des difficultés. Il n'y a pas de maturité, c'est on vit pour recevoir. Et vous avez remarqué, vous ne pouvez jamais satisfaire quelqu'un qui est égoïste. Ne l'oubliez pas. Plus vous voulez satisfaire un égoïste, plus cette personne sera exigeante. Et moins vous arriverez à la satisfaire. Le plan de Dieu n'est pas cela. Le plan de Dieu, c'est la maturité. Je m'oublie moi-même et je pense à l'autre. On ne vit pas pour recevoir, on vit pour donner. Je vais vous lire ces deux, trois notes que j'ai prises ici. Un des plus grands obstacles à la réussite d'un mariage est l'égoïsme. Une personne égoïste est entièrement préoccupée par son propre bien-être, ses avantages, son plaisir, sans considération pour l'autre. Vous voyez, c'est toujours recevoir. Les bébés sont notoirement égoïstes, les bébés. On va aller un peu plus loin maintenant, vous allez voir, vous allez bien comprendre. Nous nous attendons à ce que ces bébés deviennent graduellement matures, n'est-ce pas? Physiquement, intellectuellement et émotionnellement. C'est normal. Lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, les bébés, qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent en criant, en pleurant et en jetant les objets par terre. Lorsque nous plaçons deux bébés ensemble, sans surveillance, il y a immédiatement des problèmes. Il y aura des problèmes. De même, une femme ou un homme émotionnellement immature sont sûrs d'aller vers de graves conflits. L'enfant, le bébé, pourquoi ça ne va pas avec un autre bébé? Si vous n'êtes pas là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Pourquoi ils sont égoïstes? C'est la nature humaine qui est là. Et si tu te maries, il faut pas venir avec cette mentalité-là. Quand deux personnes vont ensemble avec cet esprit-là, les conflits seront là. D'où l'importance d'avoir un esprit de maturité. À un moment donné, vous devez dire, dans ta vie de couple, tu dois le dire, je dois enterrer cet amour filéo, où je vis toujours pour attendre de l'autre quelque chose. Et vous savez, quand quelqu'un attend de l'autre quelque chose, c'est quoi? C'est un mendiant, il attend tout. Vous êtes toujours là, comme ça. Et vous attendez. Vous attendez qu'il soit gentil, vous attendez qu'il fasse toujours quelque chose, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Vous êtes esclave. Vous attendez. Vous attendez. Et il y en a qui sont toujours dans les salles d'attente, ils attendent toujours. Que l'autre fasse quelque chose, ils attendent. Qu'est-ce que tu attends? Ben j'attends. Ben, t'attends quoi? Ben t'attends que l'autre fasse quelque chose. Ça c'est l'amour filéo. Ça c'est l'amour filéo. Ça c'est directement aller à la catastrophe. À un moment donné, si tu veux que ça change, tu dois changer ta façon d'aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu dois changer ton amour filéo en un amour divin. Et l'amour divin dit et résonne ainsi, à partir de maintenant, je ne vis plus pour recevoir, je vis pour donner et me donner. C'est cela l'amour divin. Et si vous vivez comme cela, beaucoup de problèmes seront résolus. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup. Vous n'attendez plus rien de l'autre. Vous êtes là, vous apportez. Vous donnez. Vous n'attendez plus rien. Mais ça commence à être le ciel sur la terre. Mets-le en pratique. Bannis cet égoïsme, ce caractère de bébé qui est là. Et quand les choses ne vont pas comme on veut, on crie, on pleure, et puis on balance tout par terre. On crie, si ça continue comme ça, moi je m'en vais. Et tout ça, vous connaissez tous ces mêmes disques qui reviennent. C'est le caractère d'un bébé qui est là, l'égoïste. Et les larmes, bien souvent, sont des larmes de crocodile. Crocodile. On veut que notre propre volonté se fasse. Et voilà pourquoi on est malheureux. Et on se dit chrétien. Le chrétien doit manifester, s'oublier soi-même et penser à son conjoint avant tout. Avant tout. Si tu veux de l'amour, tu dois d'abord semer de l'amour. Tu dois semer ce que tu désires voir dans l'autre, pour toi. Tu veux de la patience de la part de l'autre. Sois patient toi-même. Tu attends de l'amour de l'autre. Sème cet amour. Donne. Et cet amour divin a une autre qualité aussi. Vous savez, Jésus lui-même a dit, acte 20, 35, j'ai pris cette référence, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Ah oui, c'est bien de réagir. Mais pour certains, ils ont ce verset-là dans leur tête. Quand ils lisent, il y a plus de bonheur à recevoir. Non, non. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Recevoir, c'est humain. N'importe qui peut... Mais donner, c'est divin. Donner, c'est divin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a rien attendu des hommes. Il a donné et il s'est donné. N'attends plus rien, même de ton conjoint. Commence à te donner. Et tu verras que les choses commenceront à changer. Une deuxième qualité, je vais vous la donner. L'amour humain est un amour sentimental, émotionnel. Qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. On ne peut jamais avoir confiance en quelqu'un qui a un amour humain, émotionnel. Un jour, elle est avec vous. Le lendemain, vous vous demandez, ça y est, tout est tombé, tout. Elle vit de sentiments. Et que je le dis souvent, si vous vivez de sentiments, le senti ment souvent. Le senti ment souvent. Tu peux pas vivre de sentiments. Un jour tu te sens bien, tu es gentil. Le lendemain tu te sens mal. On peut pas t'approcher. C'est des tonnerres.
On est obligé de prendre un casque pour aller te voir.
Ça, c'est l'amour humain, sentimental. On peut pas se fier en une telle personne. Vous êtes d'accord avec moi? On peut pas se fier. On se demande toujours comment on va trouver la personne. Si elle est bien, oh là là, extraordinaire. Mais vous savez, quand elle est bien, quand elle est dans son bon jour, elle est extraordinaire. Mais quand elle est dans son mauvais jour, attention, c'est autre chose. Là, il faut mettre le casque, il faut pas de l'armure. Et là, c'est autre chose. L'amour humain est basé sur les émotions, tandis que l'amour divin, écoutez bien, est basé sur la volonté. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Commandement, soulignez commandement. Il n'a pas dit, je vous donne une petite idée, quand tu auras envie d'aimer, tu aimeras. Nous, c'est un peu comme ça. On vit de nos sentiments. Oh, tu sais, voilà. Mais je ressens rien. Voilà. Tant que, oh, voilà. On ne ressent pas d'amour, on fait rien. Quand on ne ressent pas le pardon, on ne pardonne pas. Quand on n'a pas envie de prier, on ne prie pas. Quand on n'a pas envie de louer, on ne le loue pas. Quand on n'a pas envie de témoigner, on ne le fait pas. Oui, mais où on va? Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. On ne peut pas bâtir là-dessus. Je vous donne un commandement nouveau. L'amour divin est basé sur la volonté. Quand on décide d'obéir, Dieu nous aide toujours. À nous le vouloir et à Dieu le pouvoir. Mais vous devez vouloir. Mettez-vous à l'œuvre. La volonté, c'est ça, l'amour divin. Ah, oh, je sens... Arrête! Ça, c'est Philéo qui réagit comme ça. Ah, mais non. Oh, vous savez pas. Ça y est, la pitié de soi. Combien de temps ça va durer? Ne sois plus esclave de tes sentiments. Heureusement, Jésus nous a donné la clé. Il n'a pas dit quand tu sentiras l'amour et tu aimeras. Est-ce qu'on arriverait à s'aimer? Il n'y aurait pas grand chose. Il n'y aurait pas grand chose. Mais il a dit, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Marie, aimez votre femme. Sentiment ou pas sentiment, envie ou pas envie, tu prends la décision de faire ce que Dieu te demande. C'est une question d'obéissance. Tu n'es plus influencé par tes sentiments, tu fais les choses parce que Dieu te le demande. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Dieu agir. Quand on agit, quand on obéit, Dieu agit. Et nous, on attend que Dieu agisse pour obéir. Mais c'est le contraire. Tu mets la charrue devant les bœufs. Obéis et Dieu agit. Voilà les deux qualités déjà de l'amour. Il y en a un troisième. Il y en a plusieurs, je pourrais vous en donner. On peut faire tout un message là-dessus. Mais je vais vous donner quand même. Le véritable amour, c'est un amour qui se sacrifie. Dans Éphésiens 5, je lisais le passage tout à l'heure, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Livré, vous voyez, l'esprit de sacrifice. Dans l'amour divin, il y a cela, il y a un esprit de sacrifice. Vous n'avez pas envie de le faire, mais vous le faites. Ça vous coûte quelque chose. Mais c'est ce qui vous coûte quelque chose qui a de la valeur. Si vous manifestez un amour qui ne vous coûte rien, ça n'a pas de valeur, et pour vous et pour l'autre. Comment vous dites, c'est le pilote, c'est des cacahuètes. Ça vaut rien du tout. J'avais lu une fois cette pensée, je vous la donne. Le sacrifice est la respiration de l'amour. Ah, j'ai trouvé ça, c'était beau. Je ne l'ai jamais oublié. Le sacrifice est la respiration de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il y a un esprit de sacrifice, d'oubli de soi, de renoncement pour l'autre, pour le bien de l'autre. Tandis que là, qu'est-ce qu'on se dit? Oh là, sauf qui peut. On fait tout pour se sauver soi-même. Et vous croyez que ça va marcher? Au contraire, on creuse sa tombe pour tomber dedans. Le vrai amour se sacrifie. S'oublie lui-même pour penser d'abord à l'autre. Et laissez-moi vous dire une chose. Si vous vous oubliez vous-même, Dieu, lui, ne vous oubliera jamais. Vous avez manqué une occasion de dire Alléluia. Si vous vous oubliez vous-même, Dieu ne vous oubliera jamais. Bon, je vais finir. Je vais vous donner la troisième corde. Hein, c'est ça que je ne vous ai pas donné. Oui, vous la voulez, hein? Oui, oui, oui. Vous l'aurez. C'est quoi? Un bon dialogue. Un bon dialogue. Extrêmement important. Les spécialistes le disent. Le problème numéro un dans une vie de couple, c'est le manque de dialogue, ou le peu de dialogue, ou un mauvais dialogue, ou pas de dialogue du tout. Cette troisième corde est là, un bon dialogue. Je vais vous raconter ça. Un jour, j'avais lu ce petit récit d'un jeune couple qui venait de se marier. Alors, avant le mariage, c'était le jeune homme, le prince charmant qui parle. Et c'est elle qui écoute. Il est content, le prince charmant, avant le mariage. Oh, vous ne pouvez plus l'arrêter. Il est là. Ah, oh, t'es la plus belle. Oh, ça, et puis là, elle écoute, elle est contente. Pendant la lune de miel, on va un peu plus loin maintenant, c'est elle qui parle. Et c'est lui qui écoute. Ah, elle est contente. Ah, c'est le ciel sur la terre. Mais il faut aller un peu plus loin. Après le mariage, ce sont les deux qui parlent en même temps et ce sont les voisins qui les écoutent. Voyez-vous, il y avait un problème de dialogue là-dedans, vous êtes d'accord avec moi? Les deux parlent en même temps et parlait tellement fort que c'était les voisins qui entendaient tout ça. Vous croyez qu'ils avaient un bon dialogue? Il y avait un problème quelque part. Et malheureusement, c'est bien souvent le cas. Bon, je termine. La clé d'un bon dialogue, trois verbes. Trois verbes. Écouter, parler et comprendre. Que l'homme soit prompt à... Jacques, qu'est-ce qu'il nous dit? Prompt à... Écouter est lent à parler. Prompt à écouter. Vous avez deux oreilles et une seule bouche. Donc il faut écouter deux fois plus que vous ne parlez. Mais pour certains, ils parlent deux fois plus qu'ils n'écoutent. Voilà pourquoi ça ne va pas. Et on n'écoute pas. On n'écoute rien. Et on parle. Pour avoir un bon dialogue, il faut d'abord écouter, bien écouter. Bien souvent, les problèmes viennent là. On n'écoute pas son conjoint. Une fois que tu as bien écouté, tu peux parler. Et tu parles pour comprendre l'autre. Et quand on s'est compris mutuellement, le dialogue est là, il est rétabli. Et le dialogue, bien sûr, on peut dire encore bien d'autres choses. Commence par le pardon s'il y a un mauvais dialogue, une affirmation de son amour aussi, et le fait de prier ensemble, ça aussi c'est important, de travailler ensemble et d'œuvrer ensemble pour le Seigneur. Alors, un bon dialogue, écoutez-moi bien, c'est important. Si tu veux un bon dialogue, tu dois d'abord écouter. On n'écoute plus. On n'écoute pas son conjoint. Et quand on écoute, on comprend. Quand on n'écoute pas, on comprend tout de travers. Des couples restent ensemble sur des suppositions parce qu'ils ont mal écouté l'autre. La preuve, c'est que quand ils vont voir un spécialiste dans ces problèmes-là, ils s'expliquent bien devant ce spécialiste et l'autre dit « Mais comment ?» Ah, mais c'est ça que tu as voulu dire. Et oui, c'est ça. Mais tu n'as pas écouté et tu ne voulais pas écouter. Vous voyez, il faut donc prendre le temps de s'écouter. Est-ce que l'autre a bien compris ce que tu as dit? Bien souvent, on comprend de travers ou on comprend mal et on retient ce qu'on veut. On pense que l'autre a compris, mais il n'a pas compris. Et le pire, s'il a compris de travers, c'est la catastrophe. Voyez-vous, ce sont sur ces détails-là que de graves problèmes peuvent venir. Est-ce que tu as vraiment écouté? Est-ce que tu as vraiment compris l'autre? Est-ce que tu prends le temps? Avoir un dialogue, ça prend du temps. C'est tout un art. Nous devons tous faire attention, moi le premier. Un bon dialogue, il faut d'abord écouter, écouter. Après, tu peux parler, et alors tu comprendras. Et les choses peuvent s'arranger beaucoup plus facilement et beaucoup plus en profondeur. Écoute, écoute ce que l'autre veut te dire. Écoute. Et comprends ce que l'autre veut te dire. Et beaucoup de choses peuvent changer à partir de ce moment-là. Et tu pourras répondre d'une manière intelligente après. Pour essayer d'apporter une bonne réponse. Parce que tu as compris où était le problème, où était la souffrance, où était le souci. Si tu n'écoutes pas, tu ne sais pas où est la souffrance. Souvent, les paroles qu'on dit, ce sont des paroles, voilà, c'est pour cacher quelque chose. Mais souvent, il faut gratter un petit peu pour que la souffrance, la tension, ce qui fait souffrir, puisse venir à la surface. Et dire, c'est donc ça. Et après, tu peux dire ce qu'il faut dire. Tu as compris et tu peux apporter le remède. Mais si tu n'écoutes pas, tu n'apporteras pas de remède ou un mauvais remède. Et voilà pourquoi ça ne va pas. Que le Seigneur nous aide à avoir ces trois fils. La corde à trois fils ne seront pas facilement. Et pourtant, que de coupes, même chrétiens, la moindre tension, ça explose. Comme dans le monde. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le chrétien, le couple chrétien, doit être un exemple dans ce monde qui va à la dérive. Si nous faisons comme le monde, nous allons à la dérive comme eux. Qu'avons-nous à leur dire? Dites-moi, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Vous n'avez plus rien. Ils vous regardent un petit peu? C'est pas mieux, hein? Alors, vous n'avez plus rien à dire. Donc, voyez-vous, l'ennemi utilise tout cela pour nous fermer la bouche. Que Dieu nous aide à être dans la droiture, la franchise avec Dieu. Nous humilier quand il le faut. Et obéir, et utiliser les armes, les instruments que Dieu nous donne pour rétablir les situations, mettre un bon fondement. Quand la tempête viendra, quand l'orage viendra, quand les inondations viendront, la maison tiendra bien. Elle ne tombera pas parce qu'elle est bâtie sur le roc de Jésus et de sa parole immuable. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et chaque couple que vous représentez. Avec mon épouse, nous vous souhaitons le meilleur. Le meilleur. Le Seigneur veut vous unir toujours plus et vous rendre en bénédiction aussi aux autres. Ne vous découragez pas. Il y a une solution. Mettez en pratique ce que vous avez entendu. Et cette corde à trois fils vous tiendra et vous soutiendra et vous permettra d'être un témoin et un témoignage dans ce monde qui a tant besoin de voir des couples qui tiennent bon, qui se tiennent droit et qui sont unis dans l'amour de Dieu et de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Restons dans la prière quelques instants. Dorothée a quelques paroles prophétiques pour quelques-uns d'entre nous, restons dans la prière. Merci Seigneur pour ta parole.
Alléluia. Seigneur.
Bénis merci, cette Jésus. Parole, qu'elle tombe dans un terrain bien préparé.
Oui, Seigneur, amen.
Non pas au milieu des épines ou des ronces ou des cailloux, Seigneur, mais au sein d'une terre bien préparée. un cœur obéissant.
Amen, amen.
Et qui persévère dans cette obéissance et qui portera du fruit et un fruit qui demeure. Bénis chacun, Seigneur, chacun des couples ici que tu aimes et que tu veux aider.
Oh oui, Seigneur.
Que ta parole puisse pénétrer en eux et les transformer à ton image.
Seigneur, amen. Alléluia.
Vous connaîtrez la vérité.
Alléluia.
Et la vérité vous rendra libre.
Oh oui.
Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous et chaque couple présent ou qui entendra ce message.
Amen.
À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.
Gloire à toi, Seigneur.